Religion du monde. Geneviève Delru.
Bienvenue dans Religion du Monde. Dans cette première partie avec le journaliste Jean-Louis de la Vessière, qui fut de 2011 à 2016 au bureau de l'agence France Presse à Rome et qui dirige aujourd'hui le bureau de l'AFP à Rennes, nous nous faisons l'écho des critiques dont fait l'objet le pape François au sein d'une partie de la curie et chez une frange des fidèles. Avec François dans la tempête aux éditions Salvator, Jean-Louis de la Vessière, vous signez un deuxième livre sur le pape François et vous dressez un état des lieux de l'Église catholique, une Église entre ombre et lumière, le sous-titre de votre livre. Alors, François aurait pour les uns désacralisé la fonction, relativisé la valeur du mariage chrétien, il voudrait transformer en ONG humanitaire l'Église, tandis que d'autres estiment qu'il est en fait un conservateur déguisé en libéral. Alors, cette tempête déclenchée par la révolution qu'il entend mener, selon vous, Jean-Louis de la Vessière, le pape n'a pas cherché à l'apaiser, il l'a même parfois volontairement renforcé.
Je pense qu'il veut un petit peu, effectivement, que tout ne soit pas calme. Il a dit cette phrase très très connue, « Je préfère une église accidentée à une église malade ». Donc oui, il a soufflé sur les braises, j'entends, avec un esprit un peu provocateur. Mais je pense qu'il mène tout cela avec une grande cohérence.
Ce que vous dites dans la première partie de votre livre, Jean-Louis de la Vessière, c'est que finalement, s'il y a un pape dans la tempête, il y a d'abord une église catholique dans la tempête.
Oui, je pense que l'Église catholique est face à de très grands défis complexes. Bon, en Occident, c'est la désertification des églises, la difficulté de faire passer le message. J'y reviens beaucoup dans mon livre, le déni, le mépris d'une certaine laïcité vis-à-vis de l'Église, il faut bien le reconnaître, qui pousse une partie de l'Église dans des réflexes identitaires.
Oui, vous parlez par exemple d'une lame de fond qui balaie la dimension religieuse.
Oui, par exemple, les penseurs religieux, tout cet héritage très très riche du christianisme en Europe, qu'on voit partout d'ailleurs dans les monuments, est complètement passé sous silence. Dans les discours électoraux, jamais il y a une seule allusion, sauf un peu à droite, mais à gauche, jamais une allusion sur les valeurs chrétiennes. Donc c'est un esprit laïque qui a des bons côtés, mais qui dévalorise le religieux. Et je pense que les musulmans en France en souffrent, mais les chrétiens en souffrent profondément. Ils se sentent marginalisés, pas reconnus.
Et dans le même temps, ce que vous soulignez, c'est que les jeunes, ça c'est toujours la question de l'indifférence religieuse, de la distance par rapport aux religieux, finalement de la sortie de la transcendance, de la vie quotidienne. Ce que vous soulevez, Jean-Louis de la Vessière, c'est que les jeunes, finalement, n'ont plus aujourd'hui véritablement de temps. Enfin, en tout cas, ils n'ont pas envie de consacrer de temps à ce qui relève de la vie spirituelle. C'est donc une des raisons de la crise de l'Église catholique. Et qu'ils n'ont plus non plus l'arrière-fond culturel.
Ah oui, c'est absolument frappant. Parlant avec des jeunes, on s'aperçoit que certains mots leur sont complètement étrangers. Et que finalement, on voit que l'islam peut avoir du succès dans la mesure où le message de l'islam est un beau message, plus simple et peut-être plus accessible. Certaines références du christianisme, comme la résurrection, l'incarnation, sont très difficiles pour les jeunes. Et aujourd'hui, je pense qu'il y a aussi un échec de la catéchèse dans les 30 dernières années, soit des catéchèses qui veulent absolument se rapprocher à tout prix des enfants en simplifiant, soit des catéchèses pontifiantes et ennuyeuses. C'est très très difficile la catéchèse. Je pense souvent que beaucoup de jeunes se sont éloignés dans un premier temps à cause d'une catéchèse mal faite. Et puis ensuite, il y a le deuxième point, c'est que effectivement la libéralisation des mœurs, ça fait que beaucoup de jeunes vivent ensemble avant le mariage et se sont sentis jugés par l'Église et se sont éloignés petit à petit. C'est des générations entières qui se sont senties éloignées. Et je pense que le pape François, par rapport à ses prédécesseurs, il ne change pas le dogme, il ne change pas la règle. Il dit aussi que ces jeunes ne sont pas en règle, mais il les regarde avec une profonde bienveillance. Et elle leur dit qu'ils sont à 100% dans l'Église. Et ça, c'est un grand changement.
Ça n'est plus une Église qui juge.
Ce n'est plus une Église qui juge. C'est une Église qui... ça me frappe chez le pape, cette idée du discernement des signes du temps et des mentalités de l'époque et des itinéraires particuliers. Par exemple, il est tout à fait contre les couples gays, le mariage gay, donc clairement, bien qu'il en parle peu, mais il est très soucieux de la catéchèse pour les enfants de ces couples. Ces enfants ont le droit, comme les autres, bien évidemment, d'être accueillis à 100% dans l'Église. Et ça, c'est un thème qui lui tient à cœur. Et voilà, c'est toute cette approche. Il ne faut exclure personne, il faut penser à tout le monde, y compris les gens dans des situations qui paraissent très difficilement conciliables avec l'Église.
Oui, alors là, effectivement, de cette posture partent un certain nombre d'oppositions, j'allais dire, de critiques à l'égard du pape François. Dans les pays du Sud, effectivement, opposition à ce qui pourrait paraître une sorte d'ouverture à des couples, effectivement, qui ne répondent pas à la règle de l'Église. Et puis aussi, du côté de l'Occident, le laxisme, beaucoup trop grand laxisme que reprochent certains au pape François.
Je crois que c'est un procès, selon moi, injuste. Le pape n'est pas laxiste, il est miséricordieux. Mais c'est certain qu'une question, celle de l'ouverture au sacrement des divorcés remariés civilement, est actuellement un énorme sujet de conflit qui est en train d'enfler. On l'a vu encore aujourd'hui, où le gardien du dogme, le cardinal Müller, a rappelé dans une interview à différentes églises, comme les églises allemandes, qu'elles n'avaient pas le droit de l'interpréter de manière libérale, l'exhortation apostolique post-synodale, et de libéraliser dans leur diocèse l'accès au sacrement. Donc, un ministre du pape qui, d'une certaine manière, contredit un petit peu le pape. Et cet homme est loyal, c'est-à-dire qu'il reste dans le gouvernement. Le pape, je pense, l'apprécie, apprécie sa loyauté. Ils ont des discussions franches. Mais par contre, il y a toute une frange de cardinaux, d'évêques, qui mène une campagne de plus en plus orchestrée et sournoise contre le pape à travers des interviews. Cette fameuse lettre avec les doutes, les dubia, est une attaque en règle contre le pape.
Oui, cette lettre écrite effectivement par quatre cardinaux frondeurs, on va dire. Ces cardinaux et d'autres prêtres et évêques reprochent au pape François finalement de relativiser, je vais dire, la valeur du mariage chrétien.
Cela est absolument faux. Le pape, en décidant de convoquer deux synodes successives sur la famille, a voulu au contraire défendre le mariage chrétien, l'indissolubilité du mariage chrétien. Mais il voulait aussi rendre ce mariage de nouveau accessible et de nouveau attrayant pour les jeunes, constatant que les jeunes, dans beaucoup de pays d'Occident, ne veulent plus se marier. Donc c'était un constat réaliste, mais c'est justement pour réévaluer auprès de tous ces gens éloignés le mariage chrétien qu'il a pris ce risque d'organiser ces synodes.
Ce que vous soulignez dans votre essai, Jean-Louis de la Vessière, c'est qu'on a ce tort finalement de regarder l'Église catholique toujours du Vatican.
Tout à fait, il y a deux prismes, il y a le prisme Vatican et le prisme Occident. L'Église, elle est sur les cinq continents avec des défis très importants, que l'on pense par exemple à l'Église des Philippines qui doit faire face à un pouvoir qui laisse des escadrons de la mort tuer des milliers de personnes dans les rues, que l'on pense à l'Église d'Afrique qui doit faire face à des régimes autoritaires et de la corruption, par exemple le rôle important de l'Église du Congo qui vient de faire une médiation entre le pouvoir et l'opposition, que l'on pense aux églises du Moyen-Orient, réduites à la portion congrue par la montée de l'islamisme et des dictatures, en Amérique latine, en Colombie, où l'Église a un rôle très important pour assurer la réussite du processus de paix, ce qui n'est pas du tout évident. Enfin, l'Église est souvent au premier rang dans la lutte pour la justice, pour les réformes politiques. L'Église, dans beaucoup de pays, a une influence absolument considérable. Et donc bien sûr, de temps en temps, elle glisse dans des impasses, mais au total, il faut saluer son rôle très important, aussi son rôle sur le plan humanitaire et social.
Parlant effectivement de toutes ces églises du sud, ou éloignées, j'allais dire, du centre de Rome, leurs atouts, c'est quand même que l'Église propose l'inculturation.
Absolument, et le pape insiste beaucoup là-dessus, acceptant même une certaine décentralisation qui désempare plus d'un. Il pense que l'Évangile peut pénétrer les cultures sans les déformer, sans les annihiler. Et donc, un des rêves de François est sûrement un jour que la Chine, l'immense Chine, s'ouvre au christianisme. Il cite souvent Matteo Ricci, le jésuite du XVIe siècle, qui avait été bien accueilli en Chine et qui avait été désavoué ensuite par le Vatican quelques années plus tard. Et donc, son rêve, c'est que, effectivement, dans la culture chinoise, ce christianisme, qui existe déjà un petit peu, puisse se développer sans dénaturer cette culture.
Puisque vous parlez de la Chine, il y a une grande critique qui est faite à l'égard du pape François concernant justement des compromis qu'il serait prêt à faire pour pouvoir un jour aller en Chine et pour que le christianisme pénètre un peu plus encore en Chine.
Je pense qu'il sera prudent, il veut que les droits de l'Église ne soient pas bafoués. Mais c'est certain qu'il a un grand désir d'ouverture vis-à-vis du peuple chinois. Il en a fait l'éloge. En fait, il y a deux lignes qui s'opposent à l'intérieur du Vatican même. Une ligne qui soutient l'Église clandestine à fond et une ligne plus pragmatique qui accepterait que le régime de Pékin ait son mot à dire dans la nomination d'évêques. Et il y a beaucoup de tensions autour de ça, effectivement. Et je pense que le pape, qui est jésuite et malin, il agit pas à pas. Mais sûrement, c'est un de ses grands rêves, la Chine.
Vous pensez qu'il ira en Chine ?
Non, je ne pense pas. Je ne pense pas que ça sera sous son pontificat. Il prépare le terrain, mais c'est tout de même quelque chose de longue haleine.
Alors après Rome, après les voyages du pape que vous avez suivis, de Rennes, Jean-Louis Lavesser, comment voyez-vous la vie de l'Église catholique ?
Alors plusieurs choses m'ont frappé et m'ont surprise. C'est d'abord que les églises à Rennes sont assez vivantes et elles sont pleines le dimanche. Et il y a énormément d'associations dans ces églises, une activité intense. Donc ça m'a fait plaisir de voir que dans une ville de province en France, grâce aussi à la qualité des prêtres, l'Église puisse être vivante. Ensuite, ce qui m'a frappé, c'est que c'est une Église qui est divisée en multiples chapelles, particulièrement à Rennes, hein, c'est vrai que l'Église est divisée selon les sensibilités, on va écouter tel prêtre, on va dans telle paroisse parce qu'il y a telle tendance plus conservatrice, plus ouverte qui est représentée, on choisit un petit peu, c'est quelque chose qui existe très fort. Par ailleurs, il est évident que les gens qui vont à l'église, en tout cas à Rennes, ce que j'en vois, sont beaucoup plus à droite qu'à gauche. Fillonistes, ils étaient fillonistes, est-ce qu'ils vont le rester ? C'est pas sûr, mais ça m'a beaucoup frappé. Et c'est vrai que les chrétiens de gauche ne vont pas beaucoup dans les églises. Et donc, effectivement, l'Église a perdu la classe ouvrière. Je pense que le pape François a cherché, en allant aux périphéries, à faire passer son message à des gens qui étaient complètement coupés de lui. Est-ce qu'il y arrivera ? C'est un des propos de mon essai, c'est d'avoir montré justement la difficulté de la transmission de la foi à une époque où il y a un silence parfois étourdissant de certains médias, à part quand il y a des scandales, sur le fait religieux.
Alors, Jean-Louis Lavesser, à l'heure où nous enregistrons, puisque vous évoquiez il y a quelques instants François Fillon et que la Sarthe, le fief de François Fillon, fait partie de l'aire de couverture du bureau de l'AFP de Rennes que vous dirigez, est-ce que parmi les électeurs catholiques qui s'apprêtaient à voter pour lui, eh bien un certain nombre, si sa candidature devait se maintenir, eh bien renonceront à ce vote ?
J'en suis complètement persuadé. J'en ai entendu me le dire, d'ailleurs, ils sont déçus, Par ailleurs, il peut y avoir un effet de les gens qui croient au complot contre Fillon qui, au contraire, resserrent les rangs. Il y a certainement, parmi les gens de la Manif pour tous, un esprit extrêmement monté contre le gouvernement socialiste, les années socialistes, et ces gens resteront fidèles à Fillon. Mais d'autres, des gens modestes notamment, qui voient ces émoluments très importants qui ont été distribués à sa femme, à ses enfants, sont un petit peu choqués, objectivement. Et je pense que autant une grande bourgeoisie qui se reconnaît dans Fillon va rester fidèle, autant un électorat plus populaire va être dégoûté. C'est tout de même des sommes énormes et ça, c'est tout de même choquant. C'est dans la frange haute par rapport à d'autres députés qui ont fait la même chose, mais avec des gratifications financières bien plus faibles.
Revenons justement à ces catholiques, je dirais, de la base, ceux qui font l'Église. Que dit-on à Rennes du pape François ? Vous parliez de chapelle tout à l'heure. Est-ce que là encore, il y a comme ça des divisions, des lignes de fracture ? Est-ce qu'on trouve qu'il est trop laxiste ? Est-ce qu'on trouve qu'il veut faire de l'Église une ONG ? Est-ce qu'on trouve qu'il parle trop miséricorde et pas assez de règles ?
Alors il y a une réaction que je trouve assez curieuse et significative. C'est ceux qui ne parlent pas du pape François. Et dans les discours avec les catholiques, souvent, on ne parle pas du pape François. C'est une manière de le désapprouver. C'est une manière d'émettre un espèce de doute. Certains catholiques un peu identitaires. D'autres sont au contraire très enthousiastes, des jeunes. J'ai rencontré des jeunes qui sont contents de ce que de cette tempête dont on parlait, de ce côté un petit peu spontané, cette parole rajeunie, cette parole proche. Et j'ai l'impression que, dans mon observation de l'église à Rennes, qu'il y a pas mal de nouveaux groupes étudiants qui se forment, après les JMJ notamment. Et donc, voilà, il y a un peu de réactions. Il est rare d'entendre des prêtres ou des laïcs critiquer ouvertement le pape François. Ça peut arriver dans des dîners en ville, après avoir bien bu. Mais en général, non. Mais ce qui est plus significatif, comme je disais, c'est cette omission, quoi. Cette omission, ça veut dire qu'on ne se réclame plus. Par contre, on parle dans la même conversation, les mêmes parlent avec une certaine nostalgie de Benoît XVI.
Voire de Jean-Paul II.
Voire de Jean-Paul II, peut-être encore plus.
Jean-Louis de la Vessière, on terminera notre échange sur une note plus personnelle. Il est évident que dans ce livre, vous, très nettement, on voit vos engagements, votre foi n'est pas du tout tue, au contraire, elle est mise en avant. Votre adhésion aussi au projet du pape de révolutionner l'Église, et puis votre adhésion aussi à ces lignes fortes, aux lignes fortes de ce pontificat. Là, je pense notamment à la miséricorde. Vous accordez une grande place dans votre essai à la miséricorde. Cette année de la miséricorde 2016 qui a probablement été pas très bien comprise.
Oui, je pense que la miséricorde est une intuition profonde du pape François, la raison pour laquelle il s'est senti appelé à devenir prêtre. Et c'est le contraire de la désespérance, la miséricorde. C'est le fait que toute personne, quel que soit son itinéraire, peut retrouver le chemin de Dieu, que Dieu l'attend. Et donc j'ai voulu un peu détailler ce thème qui est effectivement un peu complexe, mal compris.
Oui, il y a même Michel Onfray qui a critiqué cette année de la miséricorde, enfin critiqué en tout cas en disant voilà, oh ben les cathos c'est simple, ils vont au confessionnal, puis ils ressortent et puis ils peuvent recommencer. Ça vous paraît un peu court ?
Ça me paraît extrêmement court. C'est beaucoup plus complexe que ça, parce que la miséricorde est le chemin de toute une vie, et il ne s'agit pas de se blanchir de ses fautes, c'est pas un décompte, c'est pas la comptabilité, c'est la réconciliation avec Dieu, avec soi-même, avec les frères, avec la famille. Il s'agit de quelque chose d'essentiel, et le pape espère beaucoup de fruits de cette miséricorde, et il pense sûrement qu'il y en a eu des fruits qui ne sont pas visibles dans de multiples familles, dans les sociétés, dans les villages. Donc c'est pour ça qu'il a voulu démocratiser aussi ce jubilé, le rendre accessible à tout le monde. Est-ce qu'il y a réussi ? Il n'est pas sûr que le message soit passé partout. Ceci dit, par exemple, il y a eu cette extension de la possibilité de confesser ses fautes, d'être pardonné pour l'avortement notamment, que je trouve personnellement très très beau et très prometteur, et ça me réjouit.
Finalement, c'est une forme de légèreté, j'allais dire, même dans la gravité, semble-t-il que le pape François veut réintroduire dans l'Église. Alors légèreté, ça ne veut pas dire effectivement ne pas prendre les choses à bras-le-corps, tout au contraire, mais c'est remettre de la joie aussi. À côté d'une forme de sobriété, bien sûr, mais ça remet de la joie, recréer une église joyeuse qui ne donne plus cette image de, parfois, effectivement, de tristesse, en tous les cas, en Occident.
Absolument, je pense que le pape, par exemple, quand il a parlé dans ses catéchèses longuement de la famille, a parlé de ces moments de joie en famille, de jeu, de partage. Il montre que le monde, la société, aujourd'hui très inquiète, a besoin d'une certaine légèreté, reconnaître la grâce de la beauté, de la poésie. Il faut aussi savoir reconnaître les choses profondes et belles, simples de la vie. Et je pense que ce pape honore, fait honneur à ces petites choses, ces petits gestes de bonté de la vie, du quotidien. Il honore aussi ces gestes, qu'ils soient le fait de non-chrétiens ou de chrétiens.
Merci Jean-Louis Lavessière d'avoir été notre invité. Alors je rappelle que votre livre, François dans la tempête, est publié aux éditions Salvator. Place à l'info, après le flash nous parlerons de l'islam de France avec notre invité Didier Leschi. Restez à l'écoute de RFI. Carrefour de l'eau.